Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre.
Vous faites les mariages aussi?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio, Le Buzz TV, Sarah Lecoeuvre et Mathilde Seffer.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau Buzz TV. Je suis aujourd'hui avec Mathilde Seffer. Bonjour Mathilde.
Bonjour Sarah.
Ça va bien?
Ça va super.
En forme. Notre invitée du jour est une journaliste, chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Elle sort un livre bouleversant et passionnant, il faut le dire, sur ces femmes amoureuses de tueurs en série. Bonjour Valérie Benaïm.
Bonjour, bonjour à toutes les deux.
Bienvenue au Buzz TV. Il n'est pas celui que vous croyez. C'est le livre que vous venez de sortir aux éditions Fayard. Alors avant d'y revenir longuement, comment vous est venue l'idée d'écrire sur ce sujet? Moi, j'ignorais que vous vous passionniez pour le fait divers.
Eh ben, en fait, j'étais en train de préparer justement Touche pas à mon poste, parce que vous l'évoquiez, j'étais à ma table de travail à la maison, et j'ai toujours en fond sonore la télé allumée sur les chaînes info. Hein. Ouais. Et en l'occurrence, à ce moment-là, il y avait à l'antenne un journaliste qui évoquait l'affaire Nordal-Lelandais et l'irruption dans le dossier d'une femme amoureuse de Nordal-Lelandais et qui lui aurait passé de la drogue et de l'alcool. Et là, cette information qui était vraiment en marge du dossier m'a interpellée, m'a interrogée. Et à partir de là, je n'ai eu de cesse que de me poser des questions sur ce phénomène. Est-ce que d'abord c'en était un? Parce que ce n'était pas simplement une femme isolée. Et puis, donc, j'ai commencé à aller voir à travers le monde, aux États-Unis, et puis en Europe. Et puis, j'ai rétréci la loupe jusqu'à la poser sur la France, et je me suis rendu compte que non seulement elles n'étaient pas seules, mais qu'elles étaient nombreuses.
Ouais, c'est un phénomène. Là, voilà, ouais. Ça vous
un phénomène.
Oui. Et c'est combien de mois d'enquête? C'est plus...
Quasiment 2 ans.
Quasiment 2 ans.
Ouais.
Et il y a beaucoup de témoignages, on va y revenir, hein. C'est vraiment
avec
passionnant.
Plaisir.
On vous recommande ce livre de Valérie Benaïm, mais on va en parler dans l'interview du Buzz TV juste après les infos médias de Mathilde Seffer. Mathilde, on commence ces infos avec les confidences déchirantes de Christophe de Chavannes sur son fils.
Oui, alors l'animateur était l'invité de Frédéric Lopez ce week-end dans Un dimanche à la campagne, et c'est lorsque le sujet de ses enfants est arrivé qu'il n'a pas pu retenir ses larmes. Il a affirmé avoir été globalement un bon père avec ses 3 enfants. Il a donc 2 filles et 1 garçon de 3 unions différentes. Et Christophe de Chavannes a avoué qu'avec son fils, les relations étaient compliquées, voire inexistantes depuis près de 10 ans. Je cite, j'ai été obligée de faire le deuil. Il est vivant, mais il n'est plus là, ni pour moi, ni pour ses sœurs. Et a ajouté ne pas l'avoir vu depuis plus de 5 minutes depuis 2013.
Ah ouais, ouais, c'était une séquence très forte d'un dimanche à la campagne. Mmh. Vous connaissez Christophe Valérie?
J'ai même travaillé avec Christophe.
Ouais, comment est-il dans le travail? C'est d'ailleurs, il y a des papiers qui sortent sur lui ces dernières semaines, qui sont assez critiques.
Je l'ai déjà dit dans Touche pas à mon poste, on a eu une première expérience qui était le premier jour de tournage qui n'a pas été très heureuse, mais on s'en est expliqué. Il m'a même envoyé un petit mot à la suite de cette première journée de travail. Et à partir de là, ça s'est très bien passé tous les deux. Voilà, après, sur ses avis personnels, j'ai évidemment pas à la commenter.
Oui,
bien sûr.
Non. Mais on peut dire que c'est quelqu'un de très cash avec ses équipes.
Oui, mais comme beaucoup d'animateurs, et parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a de la pression, voilà.
Mathilde, on poursuit ses infos médias avec un nouveau témoignage à charge contre Coé.
Oui, alors une ancienne candidate de télé-réalité, Émilie Amar, a allongé la liste des témoignages. La jeune femme l'a côtoyée en 2014 lorsqu'il animait Chérie, t'es le meilleur sur NRJ 12. Et si au début, ce n'était que des remarques déplacées qu'elle prenait à la rigolade, très vite, les choses auraient pris une toute autre tournure. Je cite, « Il me faisait comprendre que je pouvais rester longtemps si j'allais dans son sens. » Chloé lui aurait ensuite demandé des photos d'elle nue, chose qu'elle a acceptée par, je cite, peur de perdre sa place. À ce témoignage s'ajoutent les 5 plaintes pour lesquelles il est désormais visé. L'animateur nie toutes ces accusations en bloc, dénonçant un complot.
Ouais. Alors Valérie, vous connaissez aussi Coé, puisque vous avez travaillé.
Télé, donc je connais un peu
le
monde.
Vous les avez tous croisés un jour ou l'autre. Ouais. Et je vous en parle aussi parce que vous a vu dans Ligne Rouge sur BFM TV la semaine dernière.
D'accord.
Puisque vous étiez là dans le studio quand il dérape sur Auschwitz. C'était sur Fun Radio.
Tout à fait.
Vous vous occupiez des informations à ce moment-là.
Ça lui a valu une mise à pied.
Et exactement. Ouais. Et il y a une témoin dans le doc qui raconte que vous lui avez fait des grands gestes de la main dès lors qu'il a déclaré ses propos.
Oui, parce
souvenez de cet épisode?
Je me souviens de cet épisode, effectivement. Bon, après, on en a reparlé avec Coé de cette, de ce, parce que ça lui a valu une mise à pied et je pense une meurtrissure parce qu'il ne s'était pas rendu compte de ce que, du fait que cette vanne n'était pas une et que et qu'elle pouvait heurter beaucoup beaucoup de monde. Et il a été extrêmement blessé de ce qu'on a pu imaginer de lui à ce moment-là.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Donc voilà. Oui, je m'en souviens vraiment vraiment très bien, bien sûr.
Ouais, comment vous réagissez quand vous découvrez ce qui lui arrive aujourd'hui?
Bah, j'ai pas à commenter une enquête qui est en cours, bien évidemment. Je pars toujours du principe que c'est très compliqué parce que je crois toujours la parole des femmes, c'est un principe inaltérable. Mmh. Et pour autant, je connais Coé, donc je suis dans une situation compliquée. Voilà.
Ouais.
Donc, j'attends de voir ce que la justice va en dire.
Ouais. Donc Valérie, vous sortez aux éditions Fayard. Il n'est pas celui que vous croyez. Vous vous intéressez à ces femmes amoureuses de criminels. Alors, vous dites que ça relève du syndrome de Bonnie and Clyde.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que ce syndrome,
alors,
Valérie?
Le syndrome Bonnie and Clyde, c'est le terme un petit peu populaire pour parler d'hybristophilie. L'hybristophilie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des femmes qui sont enclines à tomber amoureuses et à avoir une passion pour des hommes qui ont du sang sur les mains, qui ont tué. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit, parce qu'en fait, on est toutes traversées par les mêmes sentiments qu'elles, c'est-à-dire la main tendue, la rédemption, la seconde chance, l'envie d'y croire, la charité chrétienne, on appelle ça comme on veut, et puis notre côté infirmière, avocate. Et puis après, il y a le prisme de la vie privée et de ses traumas personnels et de son histoire personnelle qui font qu'on ira ou on n'ira pas et on fera le premier pas ou on ne le fera pas.
Ouais.
Mais voilà, c'est ça le syndrome Bonnie and Clyde.
Ouais. Alors, c'est un syndrome majoritairement féminin.
Oui.
Vous dites que Dee-George et Marc Dutroux reçoivent des centaines de lettres en prison. Est-ce que vraiment toute femme est disposée à, est prédisposée à ce syndrome? Il y a trois types
oui.
De
femmes. Alors, effectivement, ce que je dis, c'est que, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, parce que je suis pas psychiatre, mais c'est que... il y a quelque chose de l'ordre du désir féminin et qui est traversé, qu'on a toutes en nous. Et ce désir féminin, c'est un désir qui est sublimateur, c'est un désir qui est tellement puissant, tellement fort, qu'on est persuadé, nous les femmes, de pouvoir changer l'autre. Alors, tout simplement, hein, on ne va pas aller jusqu'au tueur en série, mais imaginons, vous avez une copine qui est avec un type dont vous savez qu'il ne se comporte pas bien du tout. Vous allez lui dire, il ne faut pas que tu y ailles, il ne vaut pas le coup, ce n'est pas bien. Mais vous allez forcément avoir votre copine qui va vous dire, non mais toi tu ne le connais pas, moi je le connais, je vais le changer. Et puis tu connais qu'une partie de l'iceberg, moi je connais l'autre partie. Voilà. Ou vous avez aussi des femmes qui tombent amoureuses d'hommes qui sont clairement homosexuels, mais dont elles se disent qu'elles vont le changer en hétérosexuel. Vous voyez, donc on est dans cet ordre-là. Alors là, on est au paroxysme, on est sur bien des sûr, femmes qui sont amoureuses d'hommes qui ont du sang sur les mains, mais on est traversé par ce désir féminin, et c'est pour ça que c'est essentiellement nous, les femmes.
Et à la différence de ce phénomène, il y a aussi, vous parlez de l'effet Voldemort. Ça, c'est le criminologue Alain Bauer qui vous en parle.
Qui utilise ce terme-là.
Vous l'interrogez dans ce livre. C'est quoi, ça, l'effet Voldemort? Ça, c'est différent de ce que vous venez de décrire.
Oui, parce que là, il y a aussi, il ne faut pas le nier, cette envie et ce petit frisson de l'interdit, de la transgression, de se frotter au mal, sans pour autant l'embrasser, bien évidemment. Mais on ne peut pas nier que malgré tout, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Après, les curseurs sont plus ou moins poussés. Il y a, pour une Monique Olivier qui, elle, aimait le mal pour le mal, il y a des centaines de femmes qui, elles, sont réellement dans une idée de rédemption, de charité chrétienne ou de main tendue, et qui peut-être peuvent ensuite transgresser. Mais voilà.
Mais il y en a, ça les excite, disons que...
Pour certaines, mais encore une fois, on ne peut pas être manichéen. C'est-à-dire qu'elles ne se le disent pas ouvertement, elles se mentent parfois même à elles-mêmes. Et on a toutes, c'est une sorte de millefeuille. On n'est pas monobloc, on n'est pas monolithique. Donc, il y en a... Aucune ne va vous dire, moi c'est uniquement par charité chrétienne, ou d'autres vont vous dire, moi c'est uniquement parce que j'ai le frisson du bad boy, ou de l'interdit.
Tout ça
est extrêmement imbriqué, bien évidemment.
Et alors... ça concerne les femmes de tous milieux sociaux. Vous avez parlé à Sophia, productrice de cinéma, qui a rencontré son mari en prison.
Je suis contente que vous parliez d'elle, parce qu'on évoque beaucoup d'autres femmes dans le livre, mais Sophia, on l'évoque peu. Sophia, c'est une femme de pouvoir, c'est une femme qui a des centaines de personnes sous son autorité, qui travaille dans le cinéma, et qui, dans le cadre de son métier, va aller en prison. Et effectivement, en prison, elle va rencontrer un type. Alors, sur le coup, il l'interpelle, il l'interroge un petit peu, parce qu'il a tout le temps des bouquins sous le bras, il semble un peu différent des autres. Et puis, bon, elle termine son film et puis elle rentre chez elle. Sauf que ce monsieur-là va lui envoyer une lettre, un courrier, pour le remercier au nom de tous les autres prisonniers d'avoir fait le film en prison et d'avoir permis à certains de connaître ce milieu-là. Et va commencer un échange épistolaire qui, au départ, n'est absolument pas basé ni le premier mouvement par Sofia, ni lui pour une histoire d'amour. Ouais. Et il va se trouver que ces deux-là vont se rencontrer et il va y avoir quelque chose de l'ordre de la connexion.
Ah, oui.
Et il va sortir de prison et elle va non seulement continuer son histoire avec lui, mais elle va l'épouser. Et ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble et qu'il n'a pas changé, qu'il n'est pas retourné en prison, bien heureusement. Peut-être petite différence malgré tout, c'est que lui a tué dans le cadre d'un règlement de compte entre voyous. Il avait à peine 19 ans et qui a mal tourné.
Oui.
Je ne le mets pas dans la même catégorie peut-être que des tueurs de...
Des crimes sexuels.
Voilà, ou que des crimes sexuels.
Ouais. Et alors hier, nous recevions Azine Ahmed Chaouch, qui est un ancien chroniqueur de Quotidien, qui lui aussi, il a suivi beaucoup de procès, notamment le procès des attentats du 13 novembre. Et il avait une question à vous poser en rapport avec votre livre, Valérie. Je vous propose de l'écouter.
J'écoute ça avec attention.
Justement, sur ce livre qui a l'air très intéressant, moi j'ai une question. Est-ce qu'à l'inverse, les femmes qui sont détenues, les femmes délinquantes, criminelles, reçoivent des déclarations d'amour et pourquoi pas des demandes en mariage d'hommes ou pas ?
Question intéressante. Oui. Mais je vous disais tout à l'heure que c'est un sentiment extrêmement féminin, et je ne le disais pas par hasard, c'est que quand on regarde la correspondance, parce qu'il n'y a pas de sondage, le sondage qu'on a, c'est un sondage un peu empirique, c'est combien de lettres reçoivent les uns et les autres, et ensuite on regarde, et en fait c'est essentiellement à 70% du courrier de femmes pour des hommes, et pas l'inverse. Et lorsque je pose les questions aux criminologues ou aux psychiatres que j'interviewe, ils m'expliquent que les hommes, en fait, ont peur des femmes qui ont tué. Ont peur des femmes qui ont du sang sur les mains. C'est castrateur pour eux. Donc ils n'y vont pas, ou ils y vont très peu. Mais vraiment, vraiment à la marge. Alors que les femmes, encore une fois, on revient à ce fameux syndrome de main tendue ou de charité chrétienne, elles sont persuadées que leur désir est tellement fort qu'il va transformer l'autre.
Ouais, c'est ça. Et les homosexuels parce qu'il y en a.
Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y a à la fois des amours homosexuels en prison, mais évidemment, alors j'en ai pas relaté, en tout cas j'en ai pas rencontré, j'en relate dans le livre, mais je n'ai pas rencontré d'hommes qui aiment des hommes ou de femmes qui aiment, qui aiment d'autres femmes. Oui. Mais évidemment que ça existe au sein des prisons, bien sûr.
Lucas Magnotta, lui qui est homosexuel, reçoit, à la différence, des lettres de femmes.
Alors exactement, Lucas Magnotta, on rappelle, celui que la presse a surnommé le dépeceur de Montréal, qui avait tué un jeune homme et qui l'avait dépecé, eh bien, lui aussi reçoit, même maintenant qu'il est marié à un autre détenu, il continue à recevoir des lettres de femmes énamourées. Il y a même des blogs au Canada. Lucas Forever, Lucas Je t'aime, I love you Lucas.
C'est incroyable.
C'est assez déstabilisant,
Mais alors, du coup, de quel côté se place l'emprise, du côté de la femme ou du criminel ?
Bonne question. Il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a deux camps qui s'affrontent parce que, évidemment, les défenseurs, et j'interview les avocats de ces hommes-là, vous diront qu'ils ne sont pas forcément dans l'emprise, qu'ils ont le droit, eux aussi, d'avoir une vie amoureuse et que ce serait les nier complètement que d'imaginer qu'ils ne puissent pas tomber amoureux. Et puis il y a les autres, notamment les anciens directeurs de prison que j'ai pu interviewer, ou du côté de ces femmes aussi parfois, qui me disent, en fait, ils n'y trouvent que de l'intérêt, il n'y a pas d'amour, parce que ces femmes, elles leur permettent de cantiner, parce qu'elles leur apportent de l'argent, d'avoir des biens qu'elles amènent en prison, une vie sexuelle, et pourquoi pas, s'ils veulent une libération anticipée, de dire, regardez, je suis totalement réinsérée. Ouais. Donc deux camps s'affrontent. Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, je pense que c'est un peu de tout ça, et que c'est au cas par cas surtout.
Bien sûr, et ça explique comment Nordal Lelandais a pu faire un enfant depuis sa prison, ça a fait les gros titres récemment, la famille de Maëlys, sa présumée victime, s'est dite choquée. Est-ce que vous aussi, ça vous a choqué ?
Évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles... ce n'était pas encore celle qui est tombée amoureuse.
Qui est tombée enceinte.
Mais effectivement, c'est une des choses qui m'a interpellée et qui fait que j'ai commencé cette enquête. Ouais. C'est parce que je me disais, mais dans quel contexte, dans quelle mesure, comment a-t-elle pu passer de la drogue et de l'alcool?
C'est au parloir, en fait, que tout se fait.
Départ, c'est au parloir. Là, en l'occurrence, on va un peu plus loin, puisque Elisabeth, en l'occurrence, a eu non seulement accès au parloir au bout de trois demandes, quand même, avant que l'administration pénitentiaire l'autorise à avoir un parloir.
C'est pas aussi simple que ça.
Mais après, en revanche, revanche, elle a eu aussi accès à un UVF. Une UVF, c'est une unité de vie familiale, sorte de petit appartement, avec une kitchenette, un petit salon salle à manger, où vous avez enfin une sorte d'intimité préservée dans les murs de la prison, mais en tout cas un peu plus préservée, qui peut être de 24 heures jusqu'à 72 heures.
Ah oui, ça peut être longtemps. Ouais. Et tous les criminels, si j'ose dire, ont droit à ce traitement de faveur.
C'est à la discrétion de l'administration, c'est elle qui décide si vous le méritez, vous y avez accès ou pas. Ouais. Certains, là encore, que j'interview dans le livre, estiment que peut-être que cet accès aux UVF a été un peu dévoyé, dans le cas notamment de Nordal Lelandais, parce que le législateur avait imaginé que c'était essentiellement pour des prisonniers qui ne devaient pas rompre un lien familial, notamment avec leurs enfants. Ouais. Voilà. Alors après, là encore, chacun jugera de cet accès à l'UVF pour Nordal Lelandais et pour d'autres.
Mais en tout cas, toute personne lambda peut écrire demain à n'importe quel criminel.
Oui, le procès a eu lieu, et auquel cas c'est l'administration pénitentiaire qui décide de transmettre ou pas le courrier, le procès n'a pas encore eu lieu, et c'est le juge qui décide si il a accès ou pas au courrier.
Ça, c'est fou.
Et alors, aux États-Unis, il y a carrément des applis de rencontres spécialisées pour les prisonniers. C'est assez dingue.
Alors, on va beaucoup plus loin qu'en France. Hein, aux États-Unis, il y a effectivement sur les smartphones, sur votre ordinateur, des sites, je ne sais pas, c'est pas adopteunmec.com, mais adopteunprisonnier.com, en l'occurrence. Et puis, avec le descriptif, je suis dans le couloir de la mort, je suis condamnée pourtant, etc. Et je cherche une jeune femme entre tel âge et tel âge, et puis il y a une correspondance qui se fait. C'est tout à fait décomplexé là-bas.
Oui, beaucoup plus qu'ici. Et vous, Valérie, auriez-vous pu garder le contact avec un ami, voire un amant, en prison? Et vous vous posez la question.
Je me pose la question pendant 2 ans. Ça a été une vraie interrogation. Évidemment, on s'interroge. Je crois que la nature du crime aussi fait que vous allez ou pas maintenir un lien. On peut être aussi dans une absence de totale de compréhension qui fait que vous mettez à distance la personne. Je crois que je n'arriverai pas à maintenir ce lien. En tout cas, dans le cas de crimes de sang ou de crimes sur des enfants.
Et alors, pour cette enquête longue, vous avez interrogé beaucoup d'experts, de témoins. C'est un vrai travail de journaliste d'investigation. Merci. Cette spécialité journalistique, vous a-t-elle manqué dans votre carrière? Vous avez essentiellement fait de l'animation.
Oui, mais en fait, ça m'a jamais manqué parce que je crois qu'on est journaliste, point barre, en fait. Et que quand on l'est, moi j'ai obtenu ma carte de presse, je devais avoir 24 ou 25 ans, j'en ai 54, ça ne vous quitte pas.
Vous l'avez toujours gardé.
Oui, et puis quoi qu'on en fasse, je crois que c'est une tournure de l'esprit, c'est une façon de vivre. Moi, je vis mon métier, que ce soit de l'animation ou autre. Ma curiosité d'esprit, mon envie de comprendre ne m'a pas quittée, et ça c'est en moi. J'avais 12 ans quand je voulais être journaliste, ça ne m'a pas quittée depuis.
Et c'est resté. Et ce livre est numéro 1, vous nous disiez en coulisses.
Oui, je suis très heureuse, je suis ravie de la curiosité des lecteurs et de leur envie justement de partager ça avec moi. Et je suis très heureuse de faire des plateaux et de dialoguer autour du livre et d'en parler, y compris avec les lecteurs, j'espère très vite, sur des dédicaces à venir.
Bon, et Valérie, impossible de vous recevoir ici sans parler de TPMP, vous apparaissez puis tous les soirs, même désormais le week-end. Oui. Ça y est, vous êtes une travailleuse du week-end. Oui. Et justement, moi je voulais m'adresser à la journaliste que vous êtes, quand parfois Cyril et Hanouna égratignent vos confrères, vos consoeurs, comment vous réagissez intérieurement?
C'est un jeu entre nous, parce qu'il le sait, il le sait d'ailleurs, il m'interpelle à ce moment-là en disant...
Avec Benjamin Duhamel, ça arrive souvent, parce qu'il le qualifie de stagiaire, on peut dire ça comme
ça. Oui, c'est Cyril, j'aime Cyril pour ce qu'il est, j'aime Cyril pour ça, et je crois que les téléspectateurs aiment Cyril justement pour son côté cage, brute de pomme, quand il rentre dedans, et d'ailleurs il le sait, parce que du coup il m'interpelle, et il me dit, Valérie, voilà, c'est un jeu entre lui et moi, et moi, ça ne me pose aucun problème, sinon ça ne ferait pas 11 ans que je travaille avec lui.
Ouais. Vous le connaissez, Benjamin Duhamel?
Oui, je le connais.
Parce que
je connaissais ses parents, en fait, pour tout vous dire.
Et Patrice Duhamel.
J'ai vu grandir Benjamin, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais voilà.
Ouais. Et alors, comme on le disait précédemment, vous participez maintenant au TPMP du week-end, donc face à Hanouna. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que le plateau penche beaucoup plus à droite, voire l'extrême droite, avec la présence de Julien Odoul ou Carla Baya?
C'est marrant, cette hémiplégie de ceux qui commentent TPMP, parce qu'ils parlent de Carla Baya ou de Julien Odoul, et ils oublient de citer Gilles Verdez et Rost, par exemple. vous en convenez,
qui sont plus
deux,
à gauche.
Et j'en cite deux, vous voyez. Oui. Donc, il y a une forme d'hémiplégie quand on parle de TPMP qui est assez désagréable, en fait.
Il y a un acharnement, vous pensez?
Oui, je crois, moi. Je crois qu'on est particulièrement scruté et qu'on a envie de se faire TPMP et Cyril Hanouna.
Oui.
Donc, moi, je demande simplement de l'objectivité, simplement.
Et d'ailleurs, en parlant de se faire Cyril Hanouna, il y a Complément d'enquête qui a consacré un numéro, c'était le 30 novembre dernier sur France 2, un numéro record. 3 millions
merci
de téléspectateurs.
Cyril, hein. On peut dire merci à Cyril.
Oui, il peut le remercier. Puis vous êtes l'une des rares proches qui avait participé au témoignage de l'émission. Comment ça s'est fait? C'est évidemment en accord avec Cyril Hanouna, j'imagine.
C'est pas en accord, c'est qu'ils m'ont contacté.
Ouais.
Et j'aurais dit oui, mais il n'y a pas de problème. J'ai dit à Cyril, ça te gêne? Il me dit non, tu fais ce que tu veux. Donc, j'y suis allée.
Et comment s'est passé l'entretien?
Très cordial, très bien. Très long. Ça a été très long pour le peu qu'ils ont gardé. Moi, de toute façon, vous me demandez de venir, je viens avec plaisir. Je vais sur tous les plateaux. Moi, je n'ai rien à cacher. Je sais ce que j'ai à dire. Voilà, après, les gens sont. Ou malveillant ou bienveillant, ou malhonnête ou honnête, en découpant ce que je raconte ou pas.
Ouais.
Mais
et
voilà,
vous,
moi
ils ont été malhonnêtes avec le découpage, votre découpage.
Alors sur ce que j'ai dit moi, ils n'ont pas tronqué mes propos, pas du tout. Après sur l'angle, chacun jugera, mais il me semble quand même que c'était extrêmement à charge.
Oui, et puis on n'apprenait pas grand chose. C'est ce qui en tout cas est ressorti.
Confirme.
Oui, comme beaucoup, vous avez été déçu de ce numéro.
C'est la montagne qui a accouché d'une souris quand même. Il me semble, hein, non?
Oui.
Bon, voilà.
Et vous décrivait comme quelqu'un qui rit beaucoup
aux blagues de Cyril.
Franchement, vous l'avez bien pris.
J'ai vraiment apprécié. Vraiment, j'ai vraiment apprécié d'être résumée, essentialisée à la fille qui rit. J'ai trouvé ça à la fois sexiste et pas très honnête.
C'est dit. Alors récemment, je voulais vous en parler de ça aussi. Vous avez décroché une émission consacrée au livre sur C8. Ça s'appelle Droit d'auteur. Alors vous recevez franchement le premier numéro, Éric Emmanuel Schmitt et Ken Follett. C'est pas rien pour ce premier numéro. Comment est née cette émission? Je crois que ça faisait longtemps que vous l'aviez en tête.
Si vous suivez TPMP, vous savez que je la réclamais depuis un petit bout de temps et qu'on on se moquait de moi d'ailleurs. Et puis j'ai à nouveau frappé à la porte avec Cyril dans mes bagages, et cette fois-ci on m'a dit oui, et je suis absolument ravie d'être la productrice exécutive de cette émission, et c'est une heure de balade, de promenade avec mon invité, un invité littéraire, parce que c'est ma grande passion, c'est mon grand amour, la littérature, et on emmène l'auteur dans un endroit qui est en rapport avec son œuvre, qui a une résonance, entre une heure et demie de promenade sur de la genèse de ce qui a fait de lui un auteur jusqu'à son dernier livre.
Ouais. Et vous êtes une grande lectrice, vous nous le disiez.
Absolument.
Vous êtes à combien de livres par semaine?
Oh, j'en ai à peu près deux ou trois en même temps par semaine. Ouais. C'est ma grande passion, c'est ma vie, la littérature.
Ouais. Et qui rêvez-vous de recevoir dans ce programme?
Alors là, je vais déjà vous dire qui je reçois là. En ce moment, c'est David Fuenquinos que j'aime beaucoup, qui est un garçon, en plus, au-delà d'être un écrivain talentueux, qui est un garçon charmant. Prochain invité sera Philippe Besson, puis nous aurons ensuite Joël Dicker, formidable, et Tatiana de Ronay. On est déjà, vous voyez, on a une belle programmation.
C'est des poids lourds de la littérature aujourd'hui.
Oui, et je suis très très heureuse qu'ils acceptent et qu'ils soient même très très contents de faire l'émission, ils en sortent ravis, donc ça me ravit à mon tour.
Eh bien, on vous suit, on vous garde quelques instants, Valérie.
Avec plaisir.
Pour notre dernière rubrique, au suivant. Nous recevrons Guy Lagache, qui est producteur, réalisateur, journaliste, ancien présentateur, vedette de M6. Déjà, est-ce que vous le connaissez?
Personnellement, non.
Ah,
je ne le connais pas. On s'est croisés, mais je ne le connais pas.
Et qu'est-ce qui vous inspire?
Un journaliste solide, qui a des fondations et qui connaît son boulot.
Ouais.
Ouais.
Et est-ce que vous avez, vous, des autres envies sur C8, dans le groupe Canal+?
Écoutez, là,
le moment de nous...
Je vous avoue que là, je suis quand même, je crois, une des journalistes les plus heureuses du moment.
Ouais.
Parce que j'ai mon émission littéraire que je mène et dont je suis la présentatrice et la productrice et la rédactrice. J'ai TPMP du lundi au dimanche, et puis j'ai ce livre-là, donc franchement, pour l'instant, tout va bien. La seule chose, vous voyez, je touche du bois pourvu que ça continue.
Ouais. Et on va vous revoir d'ailleurs en tant que joker de Touche pas à mon poste.
C'est pas dans les tuyaux, vraiment, ça va.
Récemment, c'est Pascal de la Tour du Pin qui l'avait fait.
Elle sera formidable, en plus Pascal sera vraiment, je trouve que Pascal est formidable dans l'exercice, donc je serais ravie qu'elle le soit.
Bon, et c'est à vous, Valérie, de poser une question à Guy Lagache. C'est à vous, Valérie.
Bonjour Guy, alors petite question, je sais que tu vas réaliser, produire et présenter une émission sur le changement climatique. À quel moment cette thématique est devenue une thématique prépondérante pour toi? À quel moment est-ce que tu as eu une conscience de ce bouleversement climatique et qu'il fallait en parler?
Vous, à titre personnel, vous en avez une conscience écologique, vous faites attention désormais, on en entend tellement parler aujourd'hui.
Oui, et puis d'abord parce que j'ai un grand garçon qui a 23 ans et que ces sujets-là traversent, bien sûr.
Ouais,
et donc, c'est lui qui. Voilà, c'est une génération qui est beaucoup plus consciente de ça et qui m'a un peu mise au pas et qui m'a un peu plus mise au fait. Mm. Et oui, bien sûr, il y a ce fameux film Don't Look Up, vous savez, où on se dit
sur
que
Netflix,
peut-être.
Leonardo DiCaprio.
Exactement, où chacun était plutôt centré sur son petit nombril alors que le monde était en train de s'effondrer. Je crois qu'il faut éviter ça et donc oui bien sûr à mon petit niveau.
Ouais, mais vous triez, vous...
Oui, je trie, je prends des douches plutôt que des bains. Enfin, je fais des petites choses assez basiques, mais qui me semblent... Voilà, peut-être que les uns après les autres, on peut aider et on peut faire avancer le sujet.
Bien sûr. Bah, merci Valérie Benaïm d'être venue nous voir sur le plateau du Buzz TV. Je rappelle votre excellent livre, Il n'est pas celui que vous croyez, c'est aux éditions Fayard. On vous retrouve également tous les soirs, donc n'en touche pas à mon poste, le week-end en face à Hanouna, et sans oublier votre émission Droit d'auteur sur
C8. Merci beaucoup.
Merci Mathilde. Et le Buzz TV revient demain.
Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymantas avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
J'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre.
Vous faites les mariages aussi?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.